CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui dans le mag sur les ondes de CFM Lacaune, nous prenons la direction de Vabre où mardi 9 juin avait lieu le vernissage d'une exposition. Exposition intitulée « Juste parmi la montagne, juste parmi les nations ». L'exposition est visible au Jardin des Justes justement à Vabre et elle aura vocation à se déplacer. À cette occasion, nous avons pu interviewer Simon Louvet de l'Amicale des Maquis de Vabre et aussi historien. Bonjour Simon.
Bonjour. Alors, l'exposition « Juste parmi la montagne, juste parmi les nations » qui a été réalisée par l'Amicale des Maquis de Vabre avec le PETR des Hautes-Terres-d'Oc et le Comité français pour Yad Vashem, c'est une exposition qui a pour vocation à mettre en lumière les parcours des justes qui ont sauvé des juifs donc à la Vabre, à la Bastide-Rouyroux, à la Cône, à la Case, sur tout le territoire de la montagne, de mettre en avant ces parcours de personnes souvent civiles qui ont hébergé des gens chez eux, les ont cachés, ont permis des fois leur transfert vers des lieux plus sûrs. Donc toute une logique de survie, une logistique de survie qui a été réalisée sans contrepartie, sans recherche de gains. Donc c'est uniquement sur des valeurs humaines et un engagement humaniste pour sauver des personnes qui étaient persécutées et mises en danger par l'occupant et par le régime de Vichy.
Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2015 que Lacaune et Vabre ont été qualifiés de villages de justes. C'est assez récent et c'est d'ailleurs une histoire qui est peu connue, cachée ou encore à découvrir.
Alors oui, effectivement, Vabre et Lacaune sont membres du réseau Ville et Village Juste de France du Comité français pour Yad Vashem. C'est un réseau qui a pour vocation à faire vivre la mémoire des justes et la mémoire de leur action pendant la Seconde Guerre mondiale, de la faire découvrir. C'est une histoire sur laquelle il a fallu du temps parce que ce sont souvent les enfants cachés, arrivés à l'âge de la retraite, qui ont regardé dans le rétroviseur en se disant « qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie ? Qui m'a aidé ?» Et en l'occurrence, pour ces personnes-là, les premiers à les avoir aidés au-delà de leur famille, ce sont ces justes qui les ont secourus. Et donc, c'est souvent les enfants cachés qui ont entamé les démarches pour faire reconnaître les justes qui les avaient aidés. Souvent à partir des années 1990-2000, donc ça a mis du temps à émerger parce que la première histoire qui a été racontée, ça a été celle de la Shoah et de la destruction, puis celle de la résistance en parallèle. Et voilà, celle du sauvetage, c'est une histoire qui a mûri, on va dire, et c'est une histoire dont les historiens comme moi s'emparent aujourd'hui parce que c'est une des facettes de la vie civile pendant la Seconde Guerre mondiale et du sauvetage des Juifs pendant la Shoah.
Est-ce que c'est important, alors bon, la question est un peu bateau parce que oui c'est important d'en parler, mais est-ce que c'est important aussi de mettre en avant cette histoire qui finalement peut-être est peu connue encore même des habitants, même de la montagne?
C'est vraiment important de parler de ces personnes-là, à la fois ces personnes qui ont sauvé et ces personnes qui ont été sauvées, parce qu'on a là affaire vraiment à l'intime. C'est des personnes qui acceptent d'accueillir des gens qu'elles ne connaissent pas chez elles, de les protéger, de les cacher. Donc c'est un instinct parental presque, de trouver des solutions pour les extraire. Je pense aux chefs de gare du Tortillard, le petit train de la montagne, qui ont permis à des gens de s'enfuir via le petit train. Et ces sauvetages-là sont vraiment des exemples de ce qu'un simple citoyen, sans connaissance militaire, sans pouvoir réel, ni électoral, ni politique, ni financier, c'est ce qu'un citoyen peut faire pour aider son prochain, aider quelqu'un qui est en difficulté à côté de soi. Donc, au-delà du contexte évidemment tragique de la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire de solidarité locale, c'est une histoire d'entraide, c'est une histoire de soutien, c'est une histoire de reconnaissance de l'humanité de l'autre, à une époque, celle de la Seconde Guerre mondiale, où l'humanité des Juifs était niée. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment l'égalité mise en pratique, la fraternité également, et forcément la liberté, puisque c'était la liberté et la vie des Juifs qui étaient menacées à cette période-là.
Alors Simon, si vous me permettez, le temps que vous nous avez expliqué tout plein de choses durant ces discours, ces présentations, la présentation aussi de l'espace Paul Roux du Maquis de Vabre ici à Vabre, en fait il y a quelque chose qui est ressorti, c'est aussi que c'était vraiment, on va dire, un combat de l'humanité, vous venez de le dire, mais de l'humain, en fait, vraiment, à un moment, on efface finalement les religions et en fait, on pense autrement. Et c'est ce qui, en fait, ressort un petit peu de tous les témoignages que vous avez recueillis.
Bien sûr, c'est dans cette histoire ont été impliqués des juifs, des catholiques, des protestants certes, mais qui ont agi en fait selon les valeurs et les préceptes de leur religion, et donc n'ont pas regardé si l'autre était de la même religion ou d'une autre, et ont aidé quand c'était possible. Et donc dans l'histoire des Maquis de Vabres, des protestants et des catholiques sont dans les mêmes compagnies, dans les mêmes unités, idem pour des juifs évidemment, et aucun ne regarde le culte de l'autre pour s'en séparer, mais au contraire des échanges se créent à partir de ces croyances qui sont différentes mais qui se rejoignent sur beaucoup de points historiquement déjà évidemment au fil des millénaires, et donc dans l'histoire des Maquis de Vabres on a des veillées écuméniques où un pasteur, un rabbin et un curé parlent ensemble de leur religion, de leurs livres sacrés qui sont les mêmes ou en tout cas se rejoignent, et ils ont dépassé ce qui aurait pu être un clivage ou ce qui sur le papier aurait pu en être un, ils ont réussi à le dépasser, et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Et toute cette histoire vraiment permet, si on regarde bien ses racines, de aujourd'hui avoir une inspiration pour être tolérant les uns envers les autres, accepter la différence de l'autre, en faire une force, et être dans l'échange, le partage, et au final simplement appliquer la devise de notre pays qui est liberté, égalité, fraternité. Tout se résume dans ces trois mots et tout s'est résumé dans ces trois mots également il y a 80 ans. La recherche de liberté par l'engagement maquisard, la recherche d'égalité en traitant également les juifs comme on se traite nous-mêmes quand on ne l'est pas, et en étant solidaire de ceux qui sont en difficulté, la fraternité qui est un pilier de cette histoire.
Alors je terminerai avec cette question et je vais vous laisser rejoindre donc la visite de cet espace. Il y a eu aussi une plaque qui a été dévoilée, donc une plaque remise par la région Occitanie, si je ne dis pas de bêtises, avec 5 noms donc qui ont été importants pour la commune de Vabres.
Cette plaque offerte par la région Occitanie, elle met en avant les 5 justes qui ont agi à Vabres, et c'est des personnes importantes et qui illustrent très bien la diversité de l'engagement à Vabres, puisqu'on trouve le pasteur Robert Cook, qui a participé à un sauvetage important en 1942. Dans ce sauvetage-là, il a été aidé par Hélène et Simone Ruland, qui étaient deux sœurs originaires de Castres, qui étaient des éclaireuses unionistes et qui sont des véritables chevilles ouvrières de ce sauvetage. Et c'est un élément qui est important à rappeler. On trouve également le pasteur Daniel Sens, qui a été donc qui était pasteur de l'église évangélique libre, et qui lui a effectué un sauvetage hors de Vabres, mais il était implanté à Vabres au moment de son sauvetage. Et on trouve le gendarme Hubert Land, qui était dans la même action de sauvetage que Robert Cook et les sœurs Ruland à l'été 1942 et à l'automne 1942 à la Jasse de Rennes, donc le gendarme Land qui a protégé une trentaine d'adolescentes qui étaient réfugiées à Vabres.
Vraiment, l'idée, c'est aussi peut-être de venir ici à Vabres, de découvrir. Il y a aussi le musée des mémoires laconaises qui retrace une autre partie de l'histoire de notre montagne. Mais est-ce qu'il y avait des liens entre Vabres et la Cône ou pas forcément, parce que finalement c'était peut-être pas les mêmes trajets, peut-être le Tortillard comme vous disiez.
Le Tortillard était la vraie colonne vertébrale de la montagne entre Castres et la Cône, et la deuxième colonne vertébrale c'est le Gijou qui forme la vallée, et les deux tracés avancent en parallèle. Il y a des liens forcément entre Vabres et la Cône parce que certains juifs qui étaient assignés à résidence à la Cône ont été exfiltrés par le Tortillard au moment des rafles et se sont dispersés dans la montagne. Il y a également un lien par l'action résistante, puisque les maquisards de Vabres n'étaient pas actifs à la Cône, mais des maquisards présents à la Cône ou dans les environs de la Cône, lorsqu'ils ont été attaqués par les troupes allemandes en avril 1944, se sont dispersés et certains ont rejoint les maquis de Vabres. Donc on a des maquisards qui ont été des deux maquis, et d'abord à la Cône, puis à Vabres. Et donc voilà, il y a des ponts commun, c'est une histoire qui avance en parallèle avec des influences juste différentes, puisque la Cône était peut-être un peu plus tournée vers l'Aveyron et vers l'Hérault, alors que Vabres était plus tournée vers Castres, voilà, mais quand même ce fil du Tortillard qui reliait les deux et qui fait qu'il y a eu des passages communs forcément entre les deux.
Donc de moins en moins de témoins, même quasiment plus de cette époque. Quelles sont les futures recherches, les futurs points peut-être à étudier, à rechercher, puisque j'ai entendu que finalement, c'est pas fini, puisque c'est vraiment une partie de l'histoire qu'on connaît moins.
Donc effectivement, les derniers témoins disparaissent et c'est la fatalité du temps. Pour lutter contre ça, il y a eu un énorme travail de collecte de témoignages qui a été mené et qui permet d'avoir cette histoire écrite ou enregistrée de la bouche des témoins. Maintenant, il y a de nouveaux ponts à construire dans les histoires locales qui n'ont pas forcément été tout étudiées. Et donc, il y a peut-être une grande histoire de la montagne dans la résistance à écrire. Il y a des histoires des femmes à écrire, des histoires des intellectuels à écrire, puisque Fabre a eu la particularité d'accueillir des personnages importants comme Hubert Beuve-Méry, qui va diriger le journal Le Monde dès 1944. Voilà, cette histoire-là doit se construire encore. On a tout le matériel pour le faire, puisqu'on a les archives, on a les enregistrements, on a les images. Et donc, on travaille à faire vivre cette histoire, on travaille à réorganiser nos archives, les numériser, les rendre plus accessibles. Et l'autre moyen de rendre cette histoire accessible à toutes et tous, ce sera la rénovation de l'espace d'exposition Paul Roux à Vabre, qui a vocation à ancrer véritablement cette histoire textile maquisarde de solidarité dans son territoire et dans tout le territoire de la montagne, pour que les jeunes générations qui, au fil du temps, n'auront pas la chance de croiser un témoin ou un survivant, puissent avoir devant eux toute cette histoire et tous les enseignements qu'il y a à en tirer.
Je remercie Simon Louvet d'avoir répondu à mes questions. Simon Louvet de l'Amicale des Maquis de Vabre et aussi historien. Et donc, si vous souhaitez voir l'exposition Juste parmi la montagne, Juste parmi les nations, c'est jusqu'à la mi-juillet dans le Jardin des Justes au bout du pont de Vabre. Et ensuite, l'exposition se déplacera sur le territoire des Hautes-Terres d'Oc. À noter également que si vous voulez découvrir l'espace Paul Roux, la visite est possible de 10h à 12h30 tout l'été, du mardi au samedi, et sur rendez-vous hors ouverture au 05 63 74 40 60. Toutes les informations sur le www.maquisdevabre.fr.